Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Première Loge spéciale séries éliminatoires dans l'NCAA de hockey. Pour l'occasion, on va revenir sur les matchs, sur trois matchs numéro 3 qui ont eu lieu dimanche après-midi / soir dans l'NCAA de hockey. Pour l'occasion, ça va être moi, Doyle Ibrahim, qui va être de retour à l'animation pour cet épisode. Et on est quatre pour l'épisode. Je suis accompagné de Nicolas Charon, Frédéric Rondeau et Grégory Hamel. Messieurs, comment allez-vous?
Ça va bien, vous autres?
Ça va très bien, yes.
Yes, sir. Écoute, on m'a lancé un défi, fait que je ne vous dirai pas plus c'est quoi le défi. Là. Mais bref, très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trois games assez intéressants, dont une équipe qui me fait un peu suer dans mes prédictions se retrouve dans le trou. Mais ça, on en revient un peu plus tard. D'abord, on va commencer avec un match assez intéressant dans l'Est qui avait eu lieu dimanche après-midi. Celui entre les Hurricanes de Caroline et les Devils de New Jersey. Pour l'occasion, c'était les Devils de New Jersey qui recevaient à domicile les Hurricanes. Les Hurricanes menaient 2-0 dans cette série-là et ils avaient vraiment dominé les deux premières rencontres. Les Devils, cette fois-ci, après avoir eu des performances extraordinaires de leur gardien suisse, Akira Schmid, on décide de refaire confiance à Viktor Vanecek pour le match numéro 3 et Viktor Vanecek s'est quand même très bien débrouillé. Bon, encore des 4 buts, mais heureusement, son équipe a complètement dominé les Hurricanes de Caroline et les Devils l'ont emporté par la marque de 8-4. Les marqueurs pour les Devils de New Jersey, Timo Meier, qu'on pensait qu'il allait probablement rater le reste des séries après le match numéro 7, a marqué son premier but des séries. Jack Hughes a marqué 2 buts. Michael McLeod a marqué un beau but. Nico Hischier finalement a eu son premier but dans cette série. Damon Severson, il y en a d'autres aussi. Il y a André Palat et Woods aussi. Il a marqué Wood. Il y a eu quand même plusieurs marqueurs du côté de Boston dans cette rencontre-là. Jack Hughes a eu 4 points aussi dans ce match-là. Les marqueurs du côté de la Caroline sont Sébastien Nao, Jordan Martinuk, Jordan Stahl et Seth Jarvis. Messieurs, comment expliquer cette performance quand même sensationnelle des Devils de New Jersey hier qui ont complètement dominé les Hurricanes de Caroline dès la première période? Je vais commencer avec toi, Fred.
Ben, je pense que on a vu le réveil des Devils. Là. Je pense que c'est une série qui est un peu spéciale là, selon moi, parce que ce n'est pas des matchs qui sont serrés. Ça va comme soit d'un bord, soit de l'autre. C'est comme une varlope à chaque match. Mais c'est quand même une série qui est assez intéressante. Puis je pense que cette victoire-là va donner un peu confiance aux Devils. T'sais, on a vu Meier qui a enfin marqué en série. Mais selon moi, ça reste que les Hurricanes ont un peu plus d'expérience. Du côté des Devils, on a une équipe assez jeune. T'sais, on a vu la gaffe de Luke Hughes là, qui a remis à Martina qui est parti en échappée. Puis que finalement, ça a coûté un but en tir de pénalité. Mais les Devils, hier, ça reste qu'ils ont utilisé leur rapidité. Ils ont profité de leur chance de marquer. Je pense que ça s'annonce prometteur pour la suite.
Ouais, c'est sûr. Mais Guireg, de ton côté, est-ce que tu penses que les Devils de New Jersey ont pris la bonne décision en retournant avec Viktor Vanecek pour le match numéro 3?
Ben écoute, c'est difficile à dire parce que honnêtement, il n'a pas fait un travail miraculeux non plus. Là. Il y a eu quand même un assez bon support offensif. Je pense pas qu'on peut s'attendre que les Hurricanes laissent passer 8 par soir pour le restant de la série. Donc, il va quand même falloir limiter les chances des Hurricanes à ce niveau-là. Je pense que c'est rare que tu gagnes un match de série quand tu alloues 4 buts. Mais écoute, ça a marché, donc on peut pas vraiment leur reprocher quoi que ce soit pour l'instant. À part d'avoir alloué 4 buts contre les Hurricanes. Mais comme j'ai mentionné, comme les Hurricanes ont tant de bonnes défensives que c'est surprenant de les voir un peu s'écrouler comme ça. Au moins, c'est un match, juste un match. Ils ont encore l'avance dans la série, mais c'est pour le déroulement, pour le reste de la série, je pense que c'est un peu un réveil pour eux. Peut-être qu'il y avait l'avance 2-0, ils les prenaient un peu plus à la légère, puis là, c'est un dur réveil pour eux, la première game à New Jersey. Donc non, pour l'instant, je pense qu'il va juste falloir... c'est un wake-up call, c'est un réveil pour eux, puis il va falloir un peu peut-être... arranger des petites choses pour mieux pouvoir défendre cette offensive-là des Devils qui semblent avoir trouvé un peu leur air d'aller là, en partie numéro 3.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr. Puis moi, l'affaire que j'ai surtout remarqué, c'est le réveil de certains gros joueurs des Devils de New Jersey qui n'avaient pas encore marqué dans cette série-là. Je l'avais mentionné un peu plus tôt. Nico Hischier qui marque en face au premier but du série éliminatoire. Ça va faire du bien pour les Devils de New Jersey. Même chose avec Timo Meier aussi. C'est deux attaquants de top 6 qui n'avaient pas encore marqué dans série depuis le début des séries. Ça va vraiment faire du bien à cette équipe de Devils de New Jersey. Déjà, tu as Jack Hughes hier qui a montré l'exemple avec deux buts, deux passes. Il y a aussi une petite prise avec Sébastien Nao aussi dans la rencontre. Là. C'était quand même assez spectaculaire là, mais de voir ça. Puis également aussi, hier, c'était le premier match en série éliminatoire du petit frère de Jack Hughes, Luke, qui a quand même eu deux mentions d'aide. Bon, créé un revirement qui a mené au but sur tir de pénalité de Jordan Martinuk, mais à part de l'utilité de ça, moi je trouve que pour un premier match en série éliminatoire, Luke Hughes c'est quand même bien débrouillé en général. C'est quand même assez difficile d'arriver en plein milieu d'une série où que ton équipe perd 2-0, puis genre tu es obligé de faire un impact dès tes premières présences. Donc, ça c'est une bonne nouvelle, surtout à long terme pour les Devils de New Jersey qu'on se rappelle, est quand même, pour selon moi, l'équipe la mieux bâtie sur le long terme. Là. Même qu'il y a Simon, il y a Simon Nemec qui arrive d'ici un an ou deux aussi du côté des Devils de New Jersey. Fait qu'en tout cas, c'est hyper prometteur de voir ça. Nick, qu'est-ce qui va passer de ce match numéro 3 en général?
Ben écoute, les gars ont quand même pas mal fait le tour. Là. Moi, ce que je rajouterais peut-être juste, c'est qu'il fallait s'attendre à une réponse des Devils, puis on va en parler tantôt de l'autre série, là, mais c'est un peu la même. Ils se retrouvaient exactement en fait dans la même situation que Toronto. Ça prenait une réponse parce que la différence entre 2-1 versus 3-0 est immense. Il y avait besoin de donner une réponse, puis ils ont frappé fort. Je pense défensivement, ça reste un peu inquiétant d'accorder 4 buts quand même. Je pense que c'est Greg qui a dit tantôt que tu ne marqueras pas 8 buts à chaque match, surtout contre les Hurricanes. Mais bon, peut-être qu'il y avait un relâchement aussi vers la fin de la game quand ils ont marqué leur 7e but. Mais écoute, ça reste que en série, tu dois rester concentré tout le match, même si tu mènes par un gros score, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais écoute, c'est bon du côté de New Jersey d'avoir réussi à donner un coup, puis se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de battre les Hurricanes, puis capables de marquer beaucoup de buts. Surtout, ils ont le talent pour le faire, mais c'est toujours de se le prouver puis être capable de le faire, parce que sur papier et en pratique, c'est pas toujours la même affaire. Fait que, écoute, je pense qu'ils ont joué un très très bon match en général. Comme j'ai dit, juste resserrer la défensive, puis quand tu prends une avance, pas se dire que c'est fait. Aussi pour les gardiens, on a parlé de Vanecek. Ça reste que c'est pas le meilleur gardien de la ligue, puis tu dois te protéger. Puis, je pense qu'il aurait préféré accorder, par exemple, 2-4, pour, autant pour les stats que mentalement, pour lui, c'est important. Surtout que là, il a repris son filet après avoir perdu en début de série. Fait qu'écoute, je pense que c'est pas mal ça. Il avait besoin de donner une réponse, ils ont réussi à le faire. Maintenant, ça va être de continuer sur la lancée qu'ils se sont donnés, parce que ça reste que là, le prochain match est encore un match super important. Tu peux pas te permettre de perdre ça, parce que 3-1, c'est assez difficile à remonter. Puis les Hurricanes ont tellement une bonne équipe que tu peux pas te permettre de perdre contre cette équipe-là de deux matchs. T'sais, je veux dire, généralement, ils sont difficiles à marquer contre. Là, hier, ça n'a pas été le cas, mais un match comme ça, de temps en temps, ça va arriver. Mais ça reste que là aussi, il faut s'attendre à ce que les Hurricanes reviennent fort au prochain match. C'est un peu peut-être humiliant pour eux de se faire marquer autant de buts. Donc, je m'attends à un match beaucoup plus serré lors du prochain.
Moi, la question que je me pose, puis écoute, je pense que c'est la grande question pour cette série-là, c'est est-ce que les Devils de New Jersey vont refaire le même coup qu'ils ont fait Rangers de New York à la Caroline, ou vous pensez que les Hurricanes vont être, comparativement à Rangers de New York, vont être capables de s'ajuster aux mini-changements que les Devils de New Jersey ont été capables d'apporter? Je vais commencer avec toi, Greg.
Je pense qu'écoute, les Hurricanes en général, c'est une équipe peut-être un peu mieux avec un meilleur entraîneur-chef. Je pense qu'ils vont être capables d'un peu pallier, d'un peu mettre ce match-là de côté, puis de revenir à ce qu'ils ont si bien fait depuis le début des séries. Mais, j'ai appris à ne pas douter des Devils. En même temps, les Hurricanes, je pense qu'ils sont tellement bien bâtis, malgré les blessures là, un peu en attaque, puis tout ça. Je pense que c'était juste un mauvais match. Puis, tu vas pas te faire allouer 8 buts à chaque partie. Je pense que il faut juste qu'ils connaissent un bon match numéro 4. Puis après ça, je serais vraiment surpris que les Devils fassent le même coup. Je pense que ça va être des matchs un peu plus serrés pour le restant de la série. Peut-être pas des matchs de 8-4, puis des matchs comme ça. Mais je pense que les Hurricanes ont tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir oublier ce match-là, mettre le match de côté, puis continuer sur leur série un peu qui avait commencé plus tôt.
Mm-hmm. Puis vous, Nick, puis Fred, là, je vous laisse y aller l'un ou l'autre, là, décider entre vous. Là.
Vas-y, Nick.
Ben, écoute, moi, je vais tenir ce coup. Là. Je veux juste dire, je pense qu'il y a quand même une différence entre les Hurricanes puis les Rangers. Je pense que les Rangers, c'est vraiment plus une équipe de talent qui se fiait là-dessus puis qui n'était pas la plus travaillante, mettons, tandis que les Hurricanes, c'est une équipe très bien organisée. Surtout défensivement, généralement. Là, évidemment, comme j'ai dit, le match d'hier, ça ne l'a pas reflété, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile pour les Devils de répéter ce qu'ils ont fait hier. Et les Hurricanes, écoute, c'est une équipe de caractère. Je m'attends vraiment à ce qu'ils reviennent et qu'ils gagnent cette série-là. Peut-être que New Jersey va être capable d'aller gagner un autre match, mais je pense pas que cette série-là va se rendre en 7. Les Devils ont vraiment une bonne équipe, une bonne jeune équipe, mais ne sont pas encore à maturité comme les Hurricanes sont. Donc, selon moi, les Hurricanes vont quand même garder le contrôle de la série.
C'est ça. Puis les Hurricanes, ils ont vraiment de l'expérience. Ils ont des joueurs qui sont des vétérans. Fait qu'ils vont être capables de s'ajuster. Puis, on l'a dit, là, ils ont vraiment un bon système de jeu avec Rod Brind'Amour. Puis, je pense qu'ils vont vraiment être meilleurs défensivement pour le prochain match.
Mm. Mais moi, écoute, j'ai pris la Caroline pour apporter cette série en 6 matchs. Donc, moi, je pense que, je pense que les Devils ne pensent pas qu'ils peuvent refaire le même coup parce que vous avez tout mentionné, là, l'effet Rod Brind'Amour, la défense des Hurricanes qui est clairement supérieure à celle des Rangers de New York, puis une équipe qui est très bien structurée. Donc, je serais vraiment surpris que les Devils reviennent encore une fois dans cette série-là puis remportent cette série-là alors qu'ils perdent encore 2-0. Mais écoute, en même temps, c'est difficile de douter de cette jeune équipe-là. C'est une équipe qui est très talentueuse, puis on dirait qu'à chaque fois qu'ils se retrouve dans des situations délicates, mais trouve toujours un moyen de revenir encore plus fort puis de remporter de façon convaincante les matchs suivants. Donc, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer au match numéro 4. Ça va peut-être être un match qui va être décisif dans cette série-là. Si les Hurricanes de Caroline remportent le match numéro 4, je pense que ça va être terminé pour les Devils de New Jersey, mais si cette série-là se retourne à Caroline avec une égalité de 2-2, je pense que tout peut être possible, mais ça va être intéressant de voir ce qui va se passer pour ce match numéro 4. Messieurs, maintenant, on va aller du côté, encore une fois, on va rester du côté de l'Est et on va parler du deuxième match qui avait eu lieu, celui entre les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de les Panthers de la Floride. Les Panthers menaient 2-0 avant cette rencontre-là, se retrouvent devant leurs partisans et ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. En battant les Maple Leafs de Toronto 3-2 en prolongation. Pourtant, ça avait bien commencé pour les Maple Leafs de Toronto. Ils avaient marqué très rapidement en début de première période avec Sam Lafferty qui marquait son premier but des séries éliminatoires pour donner une avance de 1-0 pour les Maple Leafs de Toronto après une période. Mais malheureusement, une autre mauvaise nouvelle est arrivée au début de la première période. Les Maple Leafs perdent leur gardien numéro 1, Ilya Samsonov, dû à un contact avec son défenseur Luke Shen, a été remplacé par Joseph Wall parce que Matthew Murray, qui est supposé être le gardien numéro 2, lui aussi est également blessé. Donc, ça ne va pas super bien du côté des Maple Leafs Toronto. Et Wolf, c'est quand même bien débrouillé. Là. Pour un gardien de but numéro 3 qui vient en remplacement de Samsonov et de Matt Murray, il a quand même fait du bon travail, mais c'est sûr que ça allait crasher. Par la suite, les Panthers ont créé l'égalité rapidement avec Anthony Duclair. Par la suite, les Maple Leafs de Toronto avaient repris les devants vers le proche milieu de la deuxième période avec Eric Gustafson, l'ancien du Canadien de Montréal, qui marque son premier but des séries éliminatoires, mais Carter Verhaeghe avec l'égalité aussi en deuxième. Donc, ils se sont retrouvés avec avec une égalité de 2-2 dans cette rencontre-là. La Floride dominait aussi les Maple Leafs en troisième période. Puis, au début de la prolongation, c'est Sam Reinhart qui marque le but de la victoire et qui donne une avance de 3-0 aux Panthers de la Floride. La question, là. Ça, c'est la question qui est la plus simple possible. Est-ce que les carottes sont cuites pour les Maple Leafs de Toronto? Je vais commencer avec toi, Fred.
Ben écoute, là, ils ne sont pas cuites encore, là, mais ils s'en viennent pas pire, les carottes, parce qu'honnêtement, il va falloir que les gros canons des Leafs soient plus présents et qu'ils marquent plus de buts. T'sais, on s'entend, c'est une série qui est quand même prenable. Là. C'est des matchs qui finissent 3-2, 4-2. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de gagner les matchs qui sont serrés. Parce que là, en ce moment, les Panthers sont pas mal menaçants. Puis, écoute, si ça continue même, ça va être le balayage. Là. Puis, je pense qu'il faut que le noyau des Leafs en marque plus. Puis, c'est ça qui peut faire la différence. Puis, j'ai vu une stat, là, ça reste que sur les 9 matchs en série des Leafs, ils ont gagné un seul match en temps réglementaire. Fait que, c'est pas de même qu'ils peuvent se rendre loin en série. Fait qu'il va falloir qu'ils donnent tout pour le dernier match parce que s'ils sont pas capables de marquer plus de buts puis d'être plus menaçants offensivement, ça va être le balayage, les gars.
Mm-hmm. Greg, selon toi, là, qu'est-ce qui explique ce déficit de 3-0 des Maple Leafs?
Ben, c'est leur gros canon offensif, comme Fred a mentionné. Aucun but encore dans cette série pour Matthews, Nylander, Marner, Tavares. Tu peux pas vraiment tu peux pas vraiment gagner si tu as 40 millions sur la masse qui ne marque pas, qui ne produit pas, qui génère quasiment rien en offensif. Depuis le début de la série, ils font des jeux qui coûtent cher à leur équipe, qui est des revirements qui mènent directement à des buts, des trucs comme ça. Puis, depuis le début de la série, c'est quasiment juste des joueurs de profondeur qui ont contribué au pointage pour les Leafs. Puis du côté de leur top 6, il n'y a quasiment rien qui se fait générer. Ils se font complètement outplayed. Ils se font dominer par les Panthers, par les gros trios des Panthers qui, eux, sont capables de performer avec les Kachuk qu'on avait mentionné, là, cette grosse ligne-là. Même Barkov, Verhaeghe qui commence à vraiment prendre leur air d'aller. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'y a personne à pointer du doigt autre que, je pense, les gros canons des Leafs qui, tu sais, c'est l'histoire qui se répète un peu, là, qui se présente pas quand ça compte, puis qui livre pas la marchandise.
On peut pas mettre ça sur le dos de Samsonov, là, je pense. Là. Tu sais, c'est offensivement que ça marche pas.
Ouais, puis Samsonov, en plus, là, qui se blesse, puis en partie numéro 3, je veux dire, en partie numéro 4, ça va être intéressant de voir si ça va être Wall ou peut-être un gardien qui a gagné deux Coupes Stanley, je sais pas d'où, si ça dit quelque chose, qu'on va voir dans les filets, qui était le gardien numéro 3 d'hier. Mais moi, ça va être intéressant de voir ça.
Ouais. Nick, question pour toi. Avec une possible défaite des Maple Leafs au match numéro 4 et un balayage pour les Panthers de Floride, est-ce que tu penses que ça va être la fin du duo Sheldon Keefe et Carl Dubas à Toronto?
Je ne sais pas si ça va l'être, mais ça devrait l'être. Écoute, je pense que cette équipe-là, c'est incroyable ce qui se passe. Tu regardes sur papier, ils ont tellement une bonne équipe. Surtout offensive. Là. C'est sûr, on ne se fera pas de cachette défensivement. C'est pas nécessairement la meilleure équipe du monde. Mais écoute, tu ne peux pas te permettre d'avoir les résultats qu'ils ont en ce moment. Je ne sais pas si à Toronto, on va penser que passer en deuxième ronde, c'est satisfaisant. Mais avec l'équipe qu'ils ont, ça devrait être la finale d'association que tu vises minimum à chaque année. Là, si tu te fais balayer par les Panthers en plus, écoute, moi je le dis haut et fort depuis longtemps, Matthews c'est un incroyable joueur de saison, mais en série, je préfère avoir Arturi Lehkonen sans blague que Austin Matthews dans mon équipe. Il est invisible, il fait rien, il n'a pas de caractère. Puis à Toronto, tu as besoin d'aller changer le DNA de l'équipe. Moi, je pense que. Écoute, on va en reparler, c'est sûr, parce que. Puis là, je dis quand ils vont être éliminés. Non, s'ils vont être éliminés, c'est 100% sûr qu'ils se font sortir. Ils ont vraiment pas assez de caractère dans cette équipe-là pour revenir. Là. Il y a des équipes que j'y croirais, mais Maple Leafs, j'y crois pas. Mais bon, on verra s'ils me prouvent. Ils vont me prouver à tort. Mais écoute, moi, je pense vraiment que. Tu dois casser le noyau. Le noyau fonctionne pas, t'as pas de caractère. Marner, sa pression, il est terrible. Puis Matthews, on dirait juste qu'il s'en fout. Genre, honnêtement, tu le regardes jouer, puis on dirait même pas qu'il a le goût d'être là. Écoute, moi, j'ai toujours trouvé qu'en série, Nylander, c'est le moins pire de la gang. Même si, OK, oui, il fait des erreurs, tout ça, c'est lui qui show up le plus. mais ça reste que c'est pas suffisant dans son cas. Puis tu rajoutes un gars comme O'Reilly qui vient rajouter du caractère puis tout, là, puis écoute, là, genre, ça n'a pas été sa meilleure série à date, loin de là, mais en première ronde, il les a extrêmement aidés, selon moi. Fait que, non, écoute, moi, je pense que passer ça, passer cette année, tu dois casser les têtes dirigeantes, le coach, puis tu dois mettre une bombe dans le vestiaire. Selon moi, tu dois regarder pour Matthews, qu'est-ce que tu peux avoir pour lui. Tu sais, Marner peut-être, mais sûrement Nylander qui est plus propice à partir. Mais tu dois casser quelque chose. Tu dois te renforcer en défense devant les buts, n'importe où. Mais écoute, c'est des joueurs exceptionnels en saison qui se pointent pas en série. Puis c'est pas une ou deux saisons que tu dis, ah, c'est de même. Là, ça fait combien? Cinq saisons peut-être?
Plus, c'est genre depuis 2017. Fait que c'est.
Mais tu sais, les deux premières années. C'est une équipe qui c'était des recrues, là, fait que tu peux pas trop leur en vouloir pour des défaites en première ronde. Là. Mais moi, je vous dis, moi, selon moi, l'erreur, là, ça fait des années que je dis ça, l'erreur des Maple Leafs de Toronto, elle s'est passée au 1er juillet 2018, c'est quand ils ont décidé de signer John Tavares. Mm-hmm. C'est là l'erreur qui est arrivée. Parce que là, t'as décidé, tu t'es dit, bon, là, on y va all-in, on essaie d'avoir un duo deux premiers centres monstres en John Tavares et en Austin Matthews. Puis, en arrière, là, à part Morgan Riley, si Morgan Riley se blesse, ils n'ont plus personne en défense. Et regarde les buts aussi, c'est rien passé. Là, ils ont essayé de faire confiance à Frederick Anderson. Frederick Anderson était bon. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de défense devant lui. Fait que des fois, il y a des moments qui paraissaient mal à ses éliminatoires, mais ce n'était pas de sa faute. Après ça, tu as essayé de faire confiance à Jack Campbell. Jack Campbell, tu débrouilles en saison régulière. Ses éliminatoires, c'était autre chose. Là, tu essaies de faire confiance à un duo, Samsonov-Matt Murray. Samsonov s'est quand même très bien débrouillé. Dans ses séries éliminatoires, puis quand même en saison régulière. Mais même là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le problème, c'est ça. Le problème était là dès le départ. C'est signé John Tavares. Et John Tavares, en plus, il ne fait que ralentir. C'est ça le problème. Et en plus... Moi, c'est ça, vas-y, continue.
Ben, non, mais j'allais juste dire, essaye de le bouger maintenant, ouais. John Tavares.
Oublie ça.
Tu regardes leur gros canon là, après cette saison. Tu sais, c'est tout un an ou deux qui leur reste. Matthews, ça va être un, Tavares 2, Marner 2, Nylander 1. Tu sais, je veux dire, si ils voient qu'à chaque saison, tu sais, on va soit les échanger ou peut-être c'est eux-mêmes qui vont décider que quand leur contrat est terminé, qu'ils vont peut-être aller essayer d'avoir du succès ailleurs. Parce que je pense que tu sais, depuis le début des séries, les deux seuls joueurs qu'on peut pas vraiment blâmer du côté des Leafs, c'est Samsonov, qui, bon, c'est sa première saison à Toronto, qui fait relativement bien. Puis je pense que Morgan Riley a vraiment rien à se reprocher non plus. Puis lui, ben, je pense qu'il est signé pour un peu plus longtemps, c'est 7 ans. Fait que je pense que lui, il est pogné là pour un peu un bout, là. Mais, non, je veux dire, leur gros canon offensif, Tavares Marner, le gros top 4, il leur reste pas beaucoup de temps à leur contrat, puis c'est eux qui, chaque année, laissent un peu, laisse tomber les Leafs.
Puis Matthews, il reste un an aussi. Un an, Matthews. Fait que ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Vont-tu le signer ou vont s'en aller en Arizona?
Puis l'affaire qui est plate pour les Maple Leafs, là, c'est que, tu sais, là, mettons là, que tu décides de vouloir bouger Matthews. Là, c'est bien beau. Il y a des équipes qui le voudraient, Matthews. Ils seraient prêts à payer cher. Mais est-ce qu'ils vont être prêts à payer l'extra en sachant que après 5 ans, là, 5-6 ans, là, l'étiquette de loser commence à y coller après. Tu sais, comme... C'est son équipe à lui, principalement. Puis il n'est pas capable de l'amener plus loin que la première ronde. Là, à date, deuxième ronde, mais je m'excuse, si tu fais balayer en 4, selon moi, tu n'as pas passé la première ronde. C'est juste gênant.
Mais
mais sa valeur prend un coup, selon moi, parce qu'une équipe qui veut aller chercher Matthews ou qui veut aller chercher un gros joueur, tu vas aller chercher un gars qui va t'aider en saison, mais en série aussi. Là, si tu vas chercher Matthews, qui va prendre je ne sais pas combien de pourcentage de ta masse salariale, mais que c'est un gars que tu sais en série, il se pointe pas, ben il n'y a pas d'équipe qui vont être prêts à payer si cher que ça, autant sur le marché des joueurs autonomes s'il se rend là que par transaction. Fait que pour les Maple Leafs, là, t'es un peu mal pris parce que qu'est-ce que tu fais avec des gars de même? Tu sais, t'es garde, t'essaies de gagner, ok, mais jusqu'à maintenant, là, c'est pas la situation d'Ovi qu'il n'est pas capable de passer à la deuxième ronde. Ils sont pas capables de passer une ronde. Là, ils en ont passé une fois, ils sont en train de se faire manger ben raide, là, tout rond. Il n'y a aucun caractère dans cette équipe-là. Puis écoute, je ne suis pas fan des Maple Leafs, mais je trouve ça tellement désolant pour les fans de voir des joueurs avec autant de talent qui ont autant pas de désir de gagner. C'est fou, tu regardes jouer. Puis, comme je dis, là, nous, on aime bien ça en rire à Montréal, là, mais ça reste que si tu te mets dans dans la peau des partisans des Maple Leafs, tu comprends pas ce qui se passe. C'est fou. Puis, comme vous disiez, je pense que ça va passer par des grosses transactions, mais aussi aller renforcer la défense. T'sais, si tu échanges un gars comme Matthews, tu peux avoir plus qu'une pièce pour lui. Renforcer la défense, l'attaque aussi, mais des joueurs plus de caractère, peut-être moins haut talent, mais. Puis t'avais des gars comme ça, t'avais un Zach Hyman, tu l'as laissé partir. Moi, je pense que la gestion du personnel est vraiment pas bonne à Toronto, puis ça commence avec Dubas puis Chalant.
C'est ça. Vas-y, continue.
Puis t'as mentionné Fred rapidement, là, dans un an, Matthews, il a l'autonomie complète. On rit un peu d'Arizona de leur situation, ils n'ont pas beaucoup de renforts. Je pense que si dans quelques heures, là, on sait que Connor Bedard, ben, l'Arizona remporte le premier choix. Je pense que peut-être Matthews va prendre va considérer Arizona un peu plus sérieusement là, pour dans un an. Je veux dire, là, ça serait vraiment un renfort pour Arizona d'avoir Bedard. Puis là, dans un an, tu as Matthews qui obtient l'autonomie complète. Je pense qu'eux, ils auraient l'argent. Il y aurait, tu sais, ça fait du sens d'aller après Matthews. Je pense que les fans des Maple Leafs doivent avoir peur de la loterie là, qui va se passer dans quelques heures.
Puis si l'Arizona se ramasse avec Bedard, l'affaire aussi, c'est que dans une couple d'années, admettons que Matthews va en Arizona et que Bedard se fait repêcher par l'Arizona, c'est qu'en plus, Matthews ne se ramasse pas avec la pression d'être la tête d'affiche. Il serait évidemment un des meilleurs joueurs de l'équipe, mais dans le sens, la tête d'affiche serait Bedard. Fait que c'est pas lui qui a la pression. Puis à ce moment-là, ça serait intéressant de voir si justement il serait capable de mieux performer en ayant un petit peu moins de pression. En plus, t'es en Arizona, t'es pas à Toronto. C'est tous des facteurs, selon moi, qui pourraient être intéressants. Peut-être à. Tu sais, des fois aussi, c'est sûr, c'est dans une certaine situation, mais ça reste que. Écoutez, genre, selon moi, regardez à Matthews, il y a des joueurs plus agressifs que d'autres. Puis écoute, je pense que Matthews, c'est pas un joueur que, malgré tout ce qui se passe autour de lui, on l'a vu il y a une couple d'années contre le Canadien, on l'a vu contre Tampa dans le match, je sais plus lequel, mais celui qu'il s'est fait battre par Stamkos. Tu sais, aucune agressivité, ce gars-là, mais c'est pas, je dis pas, évidemment, je prends pas la violence, puis je dis pas d'être agressif, mais tu sais, le compete level doit monter un moment donné, surtout en série, puis on dirait que c'est le genre d'affaire qui arrive pas avec Matthews. Mm-hmm. Puis écoutez, c'est parce que t'as beau être le meilleur joueur de saison de l'histoire, si tu fais rien en série, le monde va t'oublier.
Ouais, ben écoute, tu le vois à plusieurs reprises avec des joueurs des joueurs vedettes. Là, t'en as parlé, bon, c'est peut-être pas la même chose, mais t'sais, Ovechkin, ça lui a pris 13 ans pour apporter une course cette année, et une saison plus loin que la deuxième ronde dans sa vie. Ça lui a pris ça. T'sais, Steve Yzerman aussi avait les mêmes comparaisons qu'Austin Matthews dans sa carrière, puis finalement a remporté plusieurs Coupes Stanley à partir de sa saison 13. Donc, des fois, c'est pas tout le monde qui arrive comme un Crosby ou un Jonathan Toews, puis que comme c'est des leaders, puis gagnent la Coupe Stanley dès leur première année avec Zandaki. C'est très rare, là, c'est ce style de joueur-là. Donc, peut-être qu'Austin Matthews, t'sais, en même temps, tu peux pas vraiment changer le caractère d'une personne. Là. Ça, c'est extrêmement difficile. Ça se développe. Mais de là à dire qu'Austin Matthews doit absolument changer son style de jeu et devenir plus agressif, non, parce que ça va le dénaturaliser au final. Donc, moi, je pense pas que c'est le best. Vas-y.
Mais juste clarifier, là, peut-être c'est le même que ça sonnait, mais je dis pas de changer son style de jeu aucunement. Là. Je parle juste de monter le compete level, le niveau de compétition d'un joueur, ça doit être plus haut que ça. Pas nécessairement d'être plus agressif puis d'aller passer des gars dans la 8e rangée, mais juste être plus agressif à rondelles, aller chercher des rondelles. En série, t'as beau être le meilleur joueur du monde, faut que tu fasses le travail sale toi aussi. Tu peux pas juste attendre que tout le monde le fasse comme en saison.
Ouais.
Puis écoute, je pense que du moins jusqu'à un certain point, tu dois le faire toi aussi. Tu dois montrer l'exemple. Puis oui, peut-être que c'est pas un leader naturel, mais ça reste que quand t'es un des meilleurs joueurs de ton équipe, sinon le meilleur joueur de ton équipe, tu dois démontrer par l'exemple. Il y a beaucoup de monde qui on entendait parler quand ils ont nommé Tavares capitaine, puis même après une, deux saisons, on devrait donner le C à Matthews. Je m'excuse, mais du moins sur la glace, évidemment, on le sait pas hors glace, mais sur la glace, il y a rien qui me demande que ce gars-là est un leader. Puis il faut faire la différence entre être un leader offensif, un leader sur la glace, mais un leader comme personne. Puis je pense que, tu sais, il y a des joueurs qui l'ont, il y a des joueurs qui l'ont pas, mais je pense pas que tu peux baser ton équipe autour d'un gars comme lui. Puis c'est pour ça que je pense que ce qu'on disait par exemple avec les, les Coyotes, s'ils vont chercher un gars comme Bédard qui devient la tête d'affiche, le leader de ton équipe, supposé du moins, ben un gars comme Matthews, ça peut être intéressant d'aller là parce que tu peux jouer avec Bédard, mais sans avoir la pression d'être la personne qui est sous les projecteurs tout le temps. Puis les projecteurs de l'Arizona, on s'entend, ils éclatent un petit peu moins que ceux à Toronto.
Mais bref, si on peut faire juste un petit résumé, là. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est que peu importe ce qui arrive, on le sait que les Leafs vont perdre la série. Il va y avoir des gros changements à Toronto. Puis moi, je suis sûr que Keith et Dubus, ça va être terminé parce que c'est pas eux qui vont défaire le noyau. Là. Je pense que c'est l'équipe à Dubus, c'est lui qui l'a construite. Je pense pas que c'est lui qui va dire finalement, on va échanger Matthews, on va échanger un autre. Fait que je pense que peu importe ce qui arrive, ça, il va y avoir des gros changements cet été à Toronto.
100%. Puis je suis tellement d'accord avec toi parce que même si. S'ils restent en. Je pense que rendu où ils sont, ils ont besoin de gros changements. Là, c'est ça que je dis depuis genre 20 minutes. Mais c'est pas les gens en poste qui vont le faire parce que, comme tu dis, c'est son équipe. Fait que lui, c'est sa vision. Fait d'amener quelqu'un de nouveau avec une nouvelle vision, potentiellement peut avoir juste une vision différente, changer quelques joueurs. Puis on le sait, là, chaque DG est différent, chaque personne est différente. Puis je pense que c'est la philosophie au sein de l'équipe. Puis celle-là, elle marche pas. On passe au prochain, puis on essaye quelque chose de nouveau.
Ouais. Mais moi, l'affaire qui m'énerve, ça, je sais pas pourquoi Sheldon Keefe ne se rend pas compte de ça. Pourquoi tu jumelles Matthews et Marner ensemble? Moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que Mitch Marner, là, honnêtement, plus les années avancent, plus il me fait penser à faire que ça. Je sais pas pourquoi. Parce que Mitch Marner, là, ce gars-là peut tout faire. Mais, genre, le problème, c'est que si tu le mets avec un joueur vedette comme Austin Matthews, il va s'adapter à un joueur comme Austin Matthews au lieu de jouer son propre jeu, puis de traîner sa ligne. Parce que Mitch Marner a cette capacité-là. Il a une capacité, tu peux le faire jouer avec des joueurs avec un peu moins de talent que Matthews, puis ça va super bien fonctionner, il va être capable de tout faire. Mais le problème, c'est si tu le mets avec un joueur comme Austin Matthews, il va s'adapter à Austin Matthews, et c'est là qu'il perd un peu de son efficacité. Moi, c'est ça que j'ai un peu de la misère à comprendre avec Sheldon Keefe, pourquoi il s'entête à faire jouer Marner et Matthews ensemble. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas, non? Peut-être qu'il a décidé de le faire jouer avec un O'Reilly ou peut-être de le faire jouer avec un John Tavares. Ça fonctionnait mieux. Ça a déjà fonctionné dans le passé, Tavares puis Marner ensemble. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et la raison pourquoi je dis ça avec Phil Kessel, c'est parce que Phil Kessel, quand tu le voyais jouer à Toronto dans ses années à succès, c'est que c'est ça. C'est qu'il jouait avec des Tyler Bozak et tout. Puis dans l'équipe que je ne vais pas mentionner, il faisait jouer avec Carl Hagelin et Nick Bonino. Ça fonctionnait bien aussi. Mais tu le faisais jouer avec un joueur vedette comme Crosby ou Malkin, là, ça commençait à moins bien aller. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a là la comparaison entre Marner et Phil Kessel. C'est pas le même style de joueur, mais c'est des joueurs qui ont besoin d'être les joueurs numéro un de leur propre ligne et ne pas jouer avec des joueurs vedettes. Parce que quand la seconde qui joue avec des joueurs vedettes, ils s'adaptent au jeu au lieu de garder leur. Ils s'adaptent au style de jeu de leur joueur, de leur centre. Puis. Ne traînent plus leur ligne. Donc, c'est ça que je voulais acheter. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de la misère à comprendre.
Mais c'est ça. S'il n'y a pas de gros changement pour le match numéro 4, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là.
Ouais. Ouais, tu dois. Si t'es Sheldon Keefe, tu dois essayer quelque chose.
Essaye, tu n'as rien à perdre en jeu. C'est 3-0.
Là. Ouais, c'est ça. Et tu peux faire jouer Lafferty puis David Kampf, sa première ligne. Là. Pourquoi pas? Essaye des choses. Là. Donne 25 minutes de temps de jeu à Justin Hall. Là. Pourquoi pas?
Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il peut essayer, que je pense pas qu'il va le faire. Là. Mais écoute, ce serait quelque chose d'assez arrogant. Ben, arrogant, je sais pas, là, mais dans le sens. Moi, si j'étais coach, je l'essayerais. Puis vous allez me dire, t'es pas coach dans NHL, de quoi tu parles? Vous avez 100% raison. Non, mais genre, en tant que fan, en tant qu'observateur, quelque chose que je trouverais vraiment intéressant de voir, c'est casser ton top 4 puis t'en mets un sur chaque ligne. C'est tous des gars qui, individuellement, seraient capables de faire une différence sur une ligne. Puis écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu mets qui contre qui? Tu sais, quelle ligne contre quel joueur? Tu sais, fait que c'est quelque chose que, moi, je pense, tu peux le faire. Puis à chaque fois que tu as une ligne sur sa glace, tu as tout le temps une chance de marquer parce que tu as tout le temps des joueurs absolument incroyablement talentueux sur une ligne. Ben là, je dis incroyablement talentueux. Sur Tavares, comme on a dit, qui est peut-être en perte de vitesse, mais ça reste que tu as des joueurs extrêmement talentueux qui peuvent marquer, qui peuvent faire plusieurs choses à chaque fois qu'il y a quelqu'un sur la glace. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça, puis j'en suis conscient, mais c'est quelque chose que je pense, rendu qu'ils sont, c'est à songer. Mais bon, je m'attends pas à voir ça ce soir.
Ben, ce serait... Non, c'est quand même intéressant. Pour vrai, c'est... Ouais, moi, je trouve que ça... Écoute, je pense pas que Sheldon Keefe va faire ça, mais... Ça pourrait être quelque chose à envisager, mais en même temps, je sais pas, est-ce que tu vas mettre un Riley ou un Tavares ou un Nylander sa quatrième ligne? Non, il y a quelqu'un qui va exploser là-dedans. Là.
Donc, t'as pas à marquer un nombre de lignes, tu sais, je veux dire, tu roules les lignes le plus possible, mais bon. Tu vas à tes quatre gros joueurs. Puis, tu sais, même maintenant, on s'entend, t'as quatre gros joueurs, mais t'as O'Reilly aussi là-dedans, qu'il est pas mauvais pantoute, fait que t'es plus à 5 même. Fait que, tu divises ça le plus également possible, puis tu sais, avec les powerplay et tout ça, c'est sûr qu'ils vont avoir plus de temps de glace, mais comme pour le jeu à 5 contre 5, je pense que c'est quelque chose que tu peux envisager, mais bon, c'est bon, une vision personnelle que je lance comme ça en cas de désespération, c'est que les Leafs sont les deux pieds dedans en ce moment.
Écoute, je vais finir là-dessus parce qu'il y a une autre série à faire, mais il faut quand même dire que là, on a parlé beaucoup des Maple Leafs, mais il faut donner du crédit aux Panthers de Floride qui jouent de l'excellent hockey depuis leur montée contre les Bruins. Cette équipe-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir battu les Bruins qui ont fait que cette équipe-là est sur une lancée. Mais encore une fois, hier, là, c'est trois marqueurs différents sur trois trios différents. Ça fait du bien de voir cette équipe de la Floride qui a eu beaucoup de difficultés en saison régulière, même que pendant un bon moment de la saison, n'était pas dans les séries éliminatoires. Puis, s'est qualifié de justesse lors de la dernière semaine et, en ce moment, ben, domine. Alors qu'on pensait qu'on les passait morts dans la série contre Boston. Plusieurs personnes, dont moi, pensaient qu'ils allaient perdre contre les Leafs. Puis en ce moment, ben, même 3-0 dans ces séries, on a la possibilité de balayer les Maple Leafs de Toronto, battre l'Amérique en sort régulière de l'histoire d'un de hockey. Honnêtement, chapeau Panthers de la Floride, parce que pour vrai, plusieurs personnes doutaient de eux avant les séries éliminatoires, avant la saison régulière, même avec les nombreux changements qu'ils ont eu au cours de l'été dernier. Puis en ce moment, ben, ils dominent face au Maple Leafs de Toronto. Puis il y aura l'occasion, c'est mardi, si je ne me trompe pas, pour éliminer les Maple Leafs, je crois. Là, moi, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pas mercredi. Fait qu'il y aura la possibilité mercredi soir de dire c'est ciao au Maple Leafs de Toronto, puis de passer à autre chose. Bon, messieurs, maintenant, parlons de la dernière série qui avait eu lieu cette fois-ci dans l'Association de l'Ouest. Un match numéro 3 entre les Stars de Dallas et le Kraken de Seattle. C'était l'égalité 1-1. On a eu le droit au premier match spectaculaire où Joe Pavelski a marqué 4 buts, mais avec une victoire du Kraken en prolongation. Match numéro 2, une victoire sans équivoque des Stars de Dallas où, pour moi, selon moi, le Kraken avait joué probablement leur pire match des séries éliminatoires. Puis, le Kraken s'est complètement réveillé lors du match numéro 3, surtout à partir de la deuxième période. Je ne sais pas si c'est la blessure de Miro Scannon sur le premier but de Jordan Eberle qui a permis au Kraken de partir en feu ou le fait que la blessure de Miro Scannon a fait que comme la défense des Stars s'est juste écroulée, là, littéralement. C'est ça qui était assez particulier. Et aussi Jack Ottinger qui a moins bien paru, mais par la suite, en deuxième période, les coups sur coups, le Kraken marquait et ont pris rapidement les devants 4-0 en deuxième période avec le quatrième but de Jordan Eberle, deuxième but des séries d'Alexander Wenberg, le premier but de Carter Soucy, également Matthew Beniers qui a marqué, Tolvanen a marqué aussi dans cette rencontre-là, Yanni Gourde, et Justin Schultz aussi, qui a marqué sur le dernier but du Kraken. Puis, pour les Stars de Dallas, ben, c'est Mason Marchman. Puis l'autre, j'ai toujours de la misère, là, c'est Akenpa, c'est ça? Le défenseur des
Stars. Ça ressemble à ça, ouais.
Ça ressemble à ça, qui est Akenpa. C'est lui qui a marqué quand même un beau but pour sauver l'honneur du côté des Stars de Dallas. Messieurs, qu'est-ce qui explique cette domination du Kraken de Seattle? Je vais commencer avec toi, Nick.
On en a parlé beaucoup, là. Le Kraken, c'est une équipe vraiment structurée, puis c'est pas les meilleurs talents individuels, mais en équipe, ils poussent tout dans le même sens, puis ils poussent fort à part de ça, là, t'sais, je veux dire, c'est vraiment une équipe de travaillants, puis ils sont acharnés, ils lâchent jamais. Écoute, ils me surprennent vraiment, parce que je m'attendais à ce que Dallas passe à travers cette série-là relativement facilement. Je pense que, il me semble que j'avais dit Dallas en 5, fait que déjà ça, c'est à la poubelle, là.
T'inquiète, je comprends.
Ben écoute, tu sais, je veux dire, j'ai pas grand chose à dire plus qu'ils travaillent plus fort que Dallas, puis ils font les petits détails qui les mènent à avoir ce succès-là. C'est juste vraiment, écoute, c'est une équipe qui a de l'air bâti pour les séries. Puis je sais pas si c'est juste un flou ou quoi, mais je pense pas. Tu sais, aller voir jouer vraiment, ils sont beaux à voir. Puis dans quelques années, je pense que ça va être une équipe vraiment dangereuse parce qu'ils ont des bons jeunes aussi. Là, Matthew Beniers, évidemment, là, en partant. Fait que. Écoute, c'est pas mal ça. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Là. Je pense que c'est vraiment juste une équipe bien bâtie, bien dirigée, puis qu'ils font les bonnes choses. Puis c'est à Dallas de perdre la série ou gagner la série au final. Mm-hmm. Mais de la façon que Seattle joue, ils se mettent de meilleures dispositions pour embêter les Stars le plus possible. Et plus ça va, honnêtement, plus je pense que c'est possible que Seattle gagne la série. T'sais, au début, je leur donnais vraiment aucune chance. Je me disais, malgré tout, ils vont finir par perdre parce que Dallas c'est juste beaucoup meilleur. Mais ils me surprennent vraiment, puis honnêtement, ils sont en train de prouver à tout le monde qu'ils n'avaient pas raison à propos d'eux autres.
Mm-hmm. Greg, selon toi, est-ce que c'est vraiment le Kraken qui a complètement dominé les Stars ou c'est vraiment les Stars qui se sont écroulés à partir de la deuxième période?
Je pense que c'est un mix des deux. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète le plus, vraiment, c'est vraiment Oettinger du côté des Stars qui vraiment. Qui cherche un peu. Il y a des buts que c'est pas vraiment de sa faute, mais on a vu le but de Wenberg qui le bat. Là, il n'y avait aucune personne devant lui qui s'est fait battre par un tir de loin. Souci, un tir entre les jambes. Je pense pas que Souci, c'est un franc-tireur nécessairement. Mm-hmm. Il y a beaucoup de buts comme ça qui aimeraient revoir. Puis quand tu as un gardien qui manque de confiance en série surtout, ça va jouer dans ton mental, puis pour lui, je pense que la prochaine partie va être extrêmement importante. Je pense que c'est un peu pas la croisée des chemins, mais quasiment, parce que le prochain match va déterminer un peu la série. Je pense que s'ils perdent cette partie-là, ils sont vraiment pas dans une bonne position pour la suite. Puis en plus, c'est à Seattle. On sait que Seattle ont beaucoup de succès jusqu'à maintenant à la maison. Donc, je pense que Oettinger doit avoir une bonne partie, parce que sinon, ça va vraiment lui jouer dans la tête. Même s'il gagne, mettons, 5 à 4 ou 6 à 5, je ne serais pas surpris à voir les scores récemment. Il faut que Oettinger connaisse une bonne partie, qu'il fasse les arrêts opportuns au bon moment, puis qu'il garde son équipe dans le match, parce que je pense que si ton gardien perd confiance en série, c'est jamais bon signe.
Juste rajouter ce que tu viens de dire. Oui, Oettinger n'a pas été solide, puis en plus, le problème aussi avec Dallas, là, si on regarde le match d'hier, c'est que les buts 2 minutes 10, 3 minutes 36, 6 minutes 30, 8 minutes 22. En dedans de 10 minutes, tu perds 4-0, tu te sors du match complètement, puis là après ça, ben c'est l'énergie du désespoir, oui, mais comme tu peux pas te permettre de te faire sortir d'un match aussi rapidement que ça. Mm-hmm. Puis on le voit après, c'est l'indiscipline des fois qui embarque, tout ça. Puis je pense que c'est juste. Mentalement, il n'était pas prêt pour ce match-là.
C'est comme dans le match numéro 2, là, on en a parlé, je pense que c'était avec vous en plus. Les Maple Leafs qui menaient 2-0 après 5 minutes, puis finalement, il y a un manque de concentration, deux buts rapides, puis ça a tout changé le vent de côté dans la partie, puis ça a fait qu'ils ont perdu cette partie-là, un match pivot qui leur faisait perdre la série 2-0. Finalement, on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Puis c'est un peu ça qui s'est passé aussi hier pour les Stars. C'est un manque de concentration, c'est quatre buts rapides qui, complètement. Les Kraken, c'est juste pas regardé derrière depuis ce temps-là, puis ça leur a donné la partie numéro 4 facilement.
Puis écoutez, il faut qu'on donne crédit au Kraken aussi. Là. Je veux dire, moi aussi, il m'impressionne beaucoup. Je ne voyais pas battre Dallas. Puis écoute, plus je les vois jouer, puis plus je me dis qu'ils pourraient les battre, puis encore surprendre comme ils ont surpris l'Avalanche. Puis on parle d'un jeu collectif, on n'arrête pas de parler de ça. Mais tu sais, sur les 7 buts du Kraken, c'est 7 marqueurs différents, encore une fois. Puis ça montre mm-hmm. que vraiment tout le monde contribue dans cette équipe-là. C'est pas une seule personne, c'est vraiment tout le monde, pour vrai. Tu sais, quand tu as Carson Soucy puis Justin Schultz qui marque des buts, ben ça l'aide. Puis ça montre que mm-hmm. c'est vraiment un bon travail collectif. Je sais pas d'où, qu'est-ce que tu en penses de Justin Schultz?
C'est une légende.
Il a connu une grosse saison de 50 points, je pense, il y a une coupe d'année.
Ouais, ouais, en 2016-2017, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Okay. Non, mais c'est pas défenseur offensif. Bon, OK, qui a la quête défensive, mais dans une équipe comme le Kraken, ils sont capables de pallier ça. Mais pour l'instant, ils se débrouillent très bien en série. Mais blague à part, pour vrai, autre point que je voulais apporter aussi du côté des Stars, c'est un peu inquiétant, c'est la performance pour l'instant de Jason Robertson. J'ai l'impression qu'il ne se présente pas dans cette série-là. Il n'y a aucun point en trois matchs. Contre le Kraken, puis C'était ton meilleur marqueur à Saint-Angulière, 109 points. Puis là, en ce moment, ben, c'est pas facile là, quand c'est rendu que ton meilleur joueur offensif ne produit tout simplement pas. Ça aide pas ton équipe. Puis tes Robins non plus, il y a eu un début de. En tout cas, il y a eu une première ronde absolument extraordinaire contre le Wild, mais lui aussi, c'est un peu plus difficile pour lui depuis. Depuis le début de cette série-là. Donc, quand c'est rendu que tes deux meilleurs joueurs offensifs ne produisent pas, ben, c'est normal que par la suite, le reste va moins bien. Ton meilleur joueur, hier, c'était un des meilleurs joueurs du côté des Stars, encore une fois, c'était M. Dadonov qui a créé des beaux jeux. Non, mais vrai, même notamment sur le but à Marchman, là, une belle passe, une saucer là, directement sur la palette de Marchman qui marque sur réception. Ça, là, encore une fois, on n'a jamais vu ça à Montréal. Bref, quand c'est rendu que Dadonov est un de tes meilleurs joueurs offensifs, c'est que du côté de Dallas, ça va pas super bien. Puis là, hâte de voir ce qui va se passer avec Miro Scannon. Parce que pour vrai, son absence fait tellement mal aux Stars, ça n'a aucun sens. Les Stars, selon moi, les Stars ne vont pas s'en sortir s'ils n'ont pas Miro Scannon en défense. C'est inconcevable. Mais malheureusement, tu reçois une rondelle au visage. Puis en plus, le Kraken marque directement sur le jeu. C'est loin d'être idéal. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au match numéro 4. Mais si t'as pas de production à l'attaque de la part de tes deux meilleurs joueurs offensifs en Dijon Robertson et Roope Hintz, puis en plus, Miro Scannon n'est pas là, moi, je pense que Kraken peut s'en sortir puis gagner cette série-là. Mais ça, c'est peut-être juste une observation de l'extérieur de ma part. Là. Donc, ça reste intéressant. Mais en tout cas,
je voulais juste m'excuser rapidement. Tantôt, j'ai dit Justin Schultz, puis j'ai dit légende des Stars, mais je voulais dire légende des Oilers, puis surtout Capitals. Je joue pour une autre équipe, mais je ne m'appelle pas. Ça ne devait pas être une bonne équipe. Fait que,
Indice, a remporté deux coupes cette année de suite dans la décennie 2010. C'est la seule en passant. Fait que, normalement, ça devrait. Ils avaient Ron Exa aussi comme DG avant, mais bref, ça c'est. J'en parlerai pas.
Je sais pas, Fred P. Greg, moi ça me dit rien, en tout cas.
Moi non plus. Ça me dit quelque chose, mais vaguement. Mais bref, messieurs, c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode. Merci beaucoup, ça a été le fun. Écoute, on a quand même parlé des Leafs pendant un bout. Donc, écoute, je sais pas si ça nous fait plaisir de voir les Leafs perdre, mais ça a vraiment été le fun.
Il y a du stock à dire, ces Leafs.
Ah ouais, il y en a du stock. Puis écoute, ils vont en avoir encore plus s'ils perdent le match numéro 4 et qu'ils se font balayer contre les Panthers. Ça va être quand même fou parce que ça veut dire que les Maple Leafs Toronto Tigman n'ont pas gagné un match au deuxième tour depuis 2004. C'est quand même.
La stat reste vraie, là. On peut garder cette stat là.
C'est ça. Pour
changement, man. Run
Exa.
C'est ça. Pas Bergevin, par exemple, parce que Bergevin, il s'en va dans Pittsburgh.
Bon, il y a un. Non, mais monsieur, OK, Black. Non, on va revenir sur d'autres choses. Il y a un match ce soir, match numéro 4, entre les Oilers d'Edmonton et les Golden Knights de Vegas. Bon, les Oilers ont complètement dominé dans la deuxième rencontre, dernière rencontre. Est-ce que vous pensez que cette série-là a changé de bord et ça va du côté des Oilers d'Edmonton ou vous attendez à une réponse de la part du Kraken? Je vais commencer avec toi, Fred.
Ben, moi, je pense que les Oilers sont partis, là. Moi, je pense que, tu sais, ils avaient besoin de connaître un gros match. Puis, tu sais, offensivement, Draisaitl est incroyable, là. On l'a vu au dernier match. Puis, je pense qu'ils vont continuer comme ça. Puis, tu sais, moi, j'ai mis Edmonton jusqu'à la Coupe. Fait que, tu sais, je prendrais pas pour les Golden Knights, là.
Non, aucune chance. Aucune chance, je prends pas pour les Golden Knights. Même si c'était pas les Oilers, n'importe qui, je prends pas pour les Golden Knights. Tu sais, j'ai des valeurs, puis Golden Knights n'en font pas partie. Tu vois, fait que ça, c'est autre chose. Pour toi, Greg.
Moi, ce soir, c'est la loterie, man. À 8h, soit je me couche après, soit je m'en vais célébrer. Donc, peut-être cette partie-là, je ne vais pas l'écouter. Mais non, je pense que les Oilers sont en bonne position. Là, ils ont une bonne manière d'aller.
Mm-hmm. Puis, Nick?
Ben, écoute, c'est sûr, moi aussi, je vais regarder d'un œil attentif la loterie. Mais écoute, je pense que Oilers vont finir par gagner la série, mais je pense pas qu'il y ait une équipe qui va dominer l'autre, honnêtement. D'après moi, je m'attends à une série très corsée, puis éventuellement, je peux pas croire que les Golden Knights vont pas resserrer un peu sur Draisaitl, parce que il est pas capable d'arrêter de scorer. Là, fait que, ouais, je m'attends vraiment à une série, un reste de série très corsé, puis surtout le prochain match là, ce soir. Je pense pas vraiment que ça va être une débandade comme on a vu hier, soit du 8-4 ou du 7-2. Là. Je m'attends à un 3-2. Peut-être 4-3, là, peut-être plus de buts un peu, mais ouais.
Bon, monsieur, c'est qui complète l'épisode. Aux gens à la maison, merci beaucoup de nous écouter. Puis aussi, écoute, pour tout le monde, bonne loterie ce soir. Peut-être que le Canadien va se retrouver avec un choix top 5, peut-être top 3, peut-être Connor Bedard est le premier choix, peut-être odds top 5. Mais écoute, ça va être quand même intéressant ce qui va se passer ce soir. Puis il y a quand même un match directement après, donc on va avoir une belle soirée de hockey. Puis aux gens à la maison, au nom de toute l'équipe, je suis Doyle Ibrahim et on se voit demain pour un autre épisode de Première Loge. Salut tout le monde.